Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Pénélope Boeuf, qui a lancé de nombreux podcasts ces deux dernières années grâce à son studio La Toile sur Écoute. On parlera ensemble de comment elle s'est retrouvée dans mon propre podcast, vous verrez l'anecdote est amusante, de la différence qu'elle fait entre l'intime et le privé, de son long cheminement vers les podcasts et le fait de raconter des histoires, de ses multiples casquettes et de la façon dont elle a géré tout ça dans ses nombreuses expériences en tant que salariée et de toutes les leçons qu'elle a tirées de ce long chemin. Merci à Pénélope pour sa transparence et bonne écoute en sa compagnie. On est avec Pénélope Boeuf. Salut Pénélope.
Salut Fabrice.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va bien. Pénélope, tu es la fondatrice de ce studio qui s'appelle La Toile sur Écoute. On va en reparler, bien sûr. Le truc qui m'a fait marrer, c'est que je crois que tu fais partie des rares invités à m'avoir envoyé un message en me disant « Hey, oh salut, je viendrai bien dans ton podcast
!» Bah attends, il faut toujours demander, non ?
Donc ça m'a fait sourire. Alors oui, on va reparler, il faut toujours demander. Ça m'a fait sourire parce que donc, je t'ai répondu en disant « Mais ça y est, t'es papa, comment ça se passe ?» Non, c'est pour l'histoire de succès. Mais tu sais que c'est rare. D'habitude, je reçois des mails d'attachés de presse. Enfin, tu vois, mais c'est assez rare les gens qui demandent pour eux-mêmes et qui disent je crois qu'en fait, je serais bien dans ton truc. Tu sais qu'il s'appelle Histoire de succès, là.
Ou... Ouais, succès, Pénélope, non?
Donc, bah, merci de m'avoir envoyé ce mail. Ça me fait plaisir de.
Merci de me recevoir.
T'as une histoire, si j'ai bien compris, t'as une histoire très riche où il s'est passé plein de choses dans ta vie. Et pourtant, tu n'as qu'une trentaine d'années, quoi.
37 quand même, hein,
ça va.
Ça va. Bah, c'est pas 30 ans, c'est 37.
J'ai l'impression
que
t'as eu plein de vie déjà.
Ah ouais, j'ai eu plein de vie.
Ouais. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Pénélope, quand t'avais 7-8 ans ? CE1, CE2, quoi.
Physiquement ?
Non.
Parce qu'on s'en fout.
Si tu veux, physiquement aussi. Hein,
on s'en fout un
t'es
peu.
Une petite blonde.
Exactement. Eh bien, j'étais hyper joyeuse, hyper gaie, très rigolote. Je faisais des blagues, des spectacles, mais aussi hyper timide. Étonnamment, je n'osais pas demander un ticket de cinéma au Cinoche. Ouais, j'étais hyper timide. Mais en revanche, je pouvais danser au milieu de la rue, faire des trucs comme ça.
Et alors, pourquoi, comment ça se fait que tu arrivais à être à faire n'importe quoi en public et que quand tu étais...
Bah c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je parle de ma vie matin, midi, soir et ça me dérange pas. En revanche, en one-to-one, je vais être plus timide que ce que je vais paraître être au micro. Parce que danser au milieu de la rue, pour moi, c'est beaucoup plus facile que de dire « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais s'il vous plaît avoir un ticket de cinéma ?»
Et donc ça veut dire que là, tu es dans une zone d'inconfort un peu, enfin, t'es pas dans ta zone de confort.
Non, là ça va, mais c'est si jamais on prend un café dans un bar. Là, je vais être plus inconfort.
Tu veux dire en mode date, c'est ça ?
Non.
Ah oui.
Oh ouais, en mode on discute, je vais être quand même plus inconfort que qu'en interview parce que c'est un exercice quand même. Enfin, non, mais oui, tu vois, c'est pas pareil que
non, juste une discussion, c'est pas une interview ça.
Oui, mais c'est bon. Il y a quand même un micro dans la main, tu vois.
On pourrait très bien ne pas avoir de micro, que ça serait pareil.
Tout à fait, mais c'est pas tiens, enfin, il y a un truc qui est différent.
Ça m'intéresse.
Non, mais oui, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai un vrai sujet avec. L'intimité, c'est-à-dire qu'on me dit, mais t'es pas du tout pudique et tout machin, parce que je raconte un peu tout et n'importe quoi. Enfin, je raconte toutes mes histoires, quoi, sans aucune gêne. En revanche, dès qu'il s'agit de rentrer dans mon vrai Pénélope, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaisse.
Ok. J'ai vraiment envie de rentrer dans ton vrai Pénélope.
Titre.
C'est chelou, ouais. C'est non, mais en fait, c'est vrai que je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu te racontes toi, tu racontes, enfin, tu maîtrises ce que tu es en train de raconter. Tu racontes ce que tu veux raconter.
Oui.
Et j'imagine qu'il y a toute une part où tu te dis, bah, ça, c'est vraiment à moi.
Mmh, et je ne le dis pas.
Et je ne le dis pas.
Bien sûr.
Et donc, ouais, je comprends, en fait. Tu as vraiment ce truc où tu te dis, bah, ça, c'est des choses que je veux bien partager parce que, en vrai.
Je m'en fous.
Je m'en fous un peu. Mmh. Et d'un autre côté, le vrai intime, entre guillemets, tu le gardes pour toi.
Bien sûr. Mais en fait, tout le monde, je pense que tout le monde pense que je ne garde pas grand-chose pour moi parce que j'en dis beaucoup. Mais il y a des choses que je raconte pas. Alors, je peux même pas te dire quoi, hein, mais c'est des petits détails, tu vois, qui, pour moi, sont plus importants que de dire, je sais pas, j'en sais rien, je raconte des trucs, je raconte vraiment des trucs, en plus, énormes, mais je m'en fous. C'est rien, c'est comme si c'était un film.
Ouais.
Je sais, mais je m'en garde, quoi. Mais très peu, mais le plus important.
Comme quoi, par exemple? Non mais à meuf, tu m'as lancé là-dessus.
Attends.
En fait, je te demande pas non plus de raconter ta vie privée, quoi, tu vois. Mais c'est juste c'est quoi le genre de domaine?
Bah non, mais par exemple là, en ce moment, il y a la saison 9 de l'Arnaque qui est sortie,
ouais,
sur le thème des dates foirées. Par exemple là, aujourd'hui est sorti un épisode où je raconte que et je le raconte de façon rigolote et tout, que un mec que je kiffais m'a traîné par le pied dans un appart, et moi je le kiffais, donc je me dis putain, mais il me kiffe en fait, il me traîne par le pied, il me kiffe, il joue avec moi et tout, enfin tu vois, mais j'avais 18 ans, tu vois.
Ouais.
Mais bon,
c'est la culture, la pop culture est tellement nulle que tu fous des idées comme
c'est
ça dans
dingue,
la tête.
C'est dingue quand même. Et je raconte ça, et en fait, je le raconte en mode ah, mais je le kiffe et c'est trop drôle, et tatata, tatata, et à la fin, en plus, le mec, donc il me dit qu'il me fait la brouette, il me fait faire la brouette sur le sol, et moi je suis là, ah, il me kiffe, bon, bref. Et à la fin, le mec se fout de ma gueule et je me marre et je dis bah voilà, bon bah les filles, si jamais un mec vous tire par les pieds, franchement il vous kiffe pas, hein. Mais vous savez quoi, quelques années plus tard, et c'est vrai, quelques années plus tard, j'ai réussi à le pécho, parce que j'ai réussi à faire une petite pénélopade, enfin je l'ai presque harcelé pour le pécho, et deux jours après je l'ai dégagé un peu en revanche, en vengeance, et j'ai dit ah, 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 la vengeance c'est un plat qui se mange froid, ah, ah, ah. Et voilà, mais ça m'a rendue malheureuse. Et ça, évidemment qu'on ait l'impression que ça me fait marrer, de me mettre traîné par le pied, mais sur le coup, ça me faisait marrer. Mais avec quelques années de recul et machin, ça m'a détruite, ce mec-là. Et on s'en fout, en fait, c'est pas le sujet, tu vois. Il est pas... Mais ça, je
ça
me le garde.
Ça peut l'être, mais... Okay.
Ça peut l'être, mais c'est pas mon angle, en tout cas. Et ça, je me le garde. Et c'est un mec auquel j'ai pensé pendant 10 ans, et...
Oh là là.
Tu vois, le genre, drame. Mais en fait... Voilà, et ça, je me le garde, et je me garde tout ce... En fait, chacune des histoires, en vrai, il y a plusieurs façons de l'entendre.
Bien sûr.
Il y a la façon... la première facette, c'est celle avec... Enfin, oh là là, la première facette, c'est celle... c'est très, très dur, cette phrase. La première façon de l'entendre, c'est celle que je raconte. Tu vois, c'est pas français. C'est...
Non, mais on comprend. Ok, bah, on l'a.
Voilà.
T'inquiète.
Et la deuxième, celle que je raconte pas.
Ok. Bah et en fait, c'est intéressant parce que... Alors, désolé si je creuse là-dessus, mais c'est intéressant que tu... En même temps, c'est toi qui as voulu venir. Hein. J'étais en train de me dire... La meuf, elle a demandé, tu vois.
J'en paye le prix.
T'es totalement consentante. Non, mais en fait, c'est intéressant que tu te dises que cette histoire de... Enfin, le fait que ça t'ait rendue malheureuse, c'est un truc que tu gardes pour toi et que tu vas pas partager. Alors qu'en fait, pour moi, c'est ça le vrai sel de l'histoire. Et de la vie.
Ouais, mais ça, c'est mon intimité.
Ok.
Et ça, je partage pas.
Ok.
Et je veux bien raconter des milliards de trucs, mais en fait, tout ce qui me touche vraiment, je veux pas le raconter. Ça regarde personne.
Que toi.
Que moi. Et les trois personnes avec qui j'ai envie d'en parler.
Et oui, tes amis, j'imagine. Ouais. Ok. Ben merci pour déjà de raconter cette petite coulisse.
Sachez qu'à chacun de mes épisodes, en fait, je suis en larmes, hein, quand je l'écris.
Non, j'imagine que toutes tes dates foirées ne se sont pas transformées en chagrin d'amour de 10 piges. Mais...
Non, mais c'est une date foirée derrière. Hein. Il se passe un truc quand même, mine de rien. Et je fais genre, c'est hyper drôle et tout. Il y a quand même, là, le premier épisode, je raconte que c'est un mec qui... On se rencontre dans un bar, on couche ensemble. Et puis, en allant aux toilettes, après, je vois qu'il y a un appareil photo qui est mis sur le bureau. Il est photographe, donc bon, tu vois. C'est comme si là, je disais, t'as un ordinateur, bon, en même temps, t'es geek.
Tout est filmé et tout.
À limite, on ne fait que faire l'interview, donc ça va. Et je sors des toilettes et bah, l'appareil photo, il n'y a plus. Je me dis, non, mais je suis folle ou quoi. Et d'un coup, entre les toilettes et pas les toilettes, et j'avais entendu qu'il faisait il y avait des bruits de pas. Je m'étais dit, il se lève pour aller boire un verre d'eau, tu vois, j'en sais rien. Et bah, l'appareil photo, il n'y a plus. Et là, je me dis,
il avait filmé votre...
Là, je lui dis, espèce de dingo, mais ta fille... Il me fait, quoi, mais attends, de quoi tu parles? Il me dit, mais il y avait un appareil photo. Il dit, oui, je l'ai juste déplacé là, mais enfin, c'est juste parce qu'en fait, je sais pas, il trouve un truc avec aplomb, et du coup, je suis là, non, mais je pète un plomb. Mais je l'ai plus jamais revu. Enfin, il m'a prise pour une folle. Mais enfin, il a fait genre, il me prenait pour une folle, mais ça se trouve, c'est lui qui est dingo. Et donc, ça se trouve, je suis sur des sites de YouPorn. En plus, c'était un super coup et tout. C'était extraordinaire, en plus.
T'as pas vérifié sur, dans son...
Non, je préfère même pas voir.
Ok. C'est comme sur son appareil.
Ben, je ne savais pas où il était. Il dit non, mais je l'ai déplacé, je l'ai rangé parce que en fait j'aime pas. Il prend la poussière, je sais plus me sortir un truc. J'étais avec. Mais il le disait avec un tel aplomb. Je me. Et en plus, tu sais, tu te dis, tu viens de coucher avec le mec. Tu te dis que c'est toi qui es un peu folle. Enfin, tu vois, tu n'imagines pas que le mec a pu faire ça. Même si c'était quand même ouf. En plus, tu te dis, mais attends, c'est louche cette affaire. Bref. Bon, tu vois, en fait, donc il y a toujours quand même une histoire tacite.
Ok. Oui, j'imagine que ça, c'est pareil. Hein. Tu rentres pas chez toi en te disant ta 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 ta.
Ah non.
Ça va être super.
Non, et tu vois, j'ai terminé l'épisode en disant bon, les gars, si jamais vous allez sur des sites un peu olé olé et que vous voyez, j'ai dit une bombe avec une autre bombe, évitez de regarder mes fesses. Mais en fait, c'est dramatique si jamais ils me voient. Bien plus que juste regarder pas mes fesses. J'en ai rien à foutre qu'ils regardent mes fesses, les gens. Bah, oui. C'est pas ça le sujet. Mais voilà.
Pourquoi on est, pour le coup, on est dans l'intimité, intimité.
Bah oui, ça, on ne peut plus intime. Ouais, l'enfer.
Ok, donc intimité publique. Donc déjà, quand t'étais petite, t'avais déjà ce truc.
Oui.
Ou c'était compliqué. Mais ok, c'était compliqué d'aller demander un ticket de ciné.
Ouais.
Comment tu grandis? Comment ça se passe l'adolescence pour toi, le collège, tout ça?
Horrible, horrible. Je suis complètement en décalage. Déjà, je fume pas. Je ne bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. Je sors pas trop avec des mecs parce que je m'en fous un peu. Je suis en décalage total. Je me fais un peu chier avec les gens. Et je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie, collège, lycée. Alors, je fais beaucoup de sport. Je fais 10 ans de volley en compétition et ça me nourrit beaucoup. Et
t'es quand même en équipe, là. Le volley, pour le coup, il n'y a pas...
Oui, mais on est autour du sport. On n'est pas en train de parler de trucs qui ne m'intéressent pas, quoi.
Ok.
Et
tu te fais pas de potes dans cette équipe de sport?
Si, non, mais je me fais des potes même au lycée. Hein. Mais disons que les soirées open bar, tout le monde est là, ah, trop bien, je suis à fond, je peux avoir un coca zéro, ah, t'es chiante. Enfin, tu vois, en plus, je me fais défoncer parce que j'aime pas l'alcool.
Je connais, j'ai fait ça aussi.
Ah, tu fumes pas, du coup, moi, je suis pas dehors en train de me légeler pour fumer une club, je préfère être dedans et il y a que les losers qui fument pas, donc je suis avec les losers du lycée. Enfin, tu vois, bon.
Est-ce que tu t'es mise à fumer depuis?
Ouais, depuis je fume comme une folle. Mais ça n'a rien à voir. J'ai fumé au Vietnam parce que j'étais. Enfin bref, rien à voir avec. Bon, en l'occurrence, j'ai fumé pour me faire des potes au Vietnam. Mais ça a été. J'avais 28 ans, donc c'était très tard. C'est un peu con. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, c'est un peu dommage.
Mais c'est quand même con de commencer à fumer à 28 ans alors pour te faire des potes alors que c'est comme le truc.
À 15, ouais.
C'est comme le truc de l'adolescence.
Mais tu vois, je fais tout un peu en décalage. Et non, donc voilà, donc ça c'était pas la folie, mais bon, ça allait très bien, hein, j'étais pas du tout. Mais bon, j'ai connu mieux comme période. Et après, il y a eu la fac. Bah, la fac, j'ai fait du droit parce que je savais pas quoi faire, alors que je me sentais artiste, mais en même temps, artiste de quoi, puisque je suis nulle manuellement, je sais rien faire et j'ai juste des idées, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, bah, fais du droit, ok, je fais du droit. Le droit, c'est l'enfer, ok, bon, bah, tiens, qu'est-ce que.
Attends, tu vas trop vite. Je sais que t'es une très bonne cliente, hein. Je te vois partir, mais 2 secondes. Qu'est-ce qui fait que tu fais du droit plutôt que de te lancer dans un truc manuel? Ils font quoi tes parents?
Ma mère, en fait, mon père était expat. Il s'occupait de monter des sièges du Club Med,
okay.
En Afrique du Sud, à New York, au Canada. Et moi, je suis née à Londres. Et donc, ils ont passé 15 ans à Londres. Moi, je suis partie à 8 ans de Londres. Et après, ils sont arrivés à Paris sans boulot. Et donc, ma mère n'avait pas de boulot. Elle a repris ses études de psycho. Et voilà. Donc, mon père, c'est un intrapreneur. Et ma mère, c'est un peu elle qui était artiste. Elle peint, elle est hyper bonne pour le cours manuel, elle raconte des histoires de façon géniale. Voilà, ce qu'en font mes parents. C'est quoi la question?
Je me demandais un peu pourquoi t'avais...
Oui, voilà. pourquoi j'ai fait du droit et pas un truc manuel.
Rabrouer cette...
En fait, j'avais... parce que franchement, non, mais je ne sais... Comment veux-tu aller dans une école d'art quand tu ne sais pas dessiner un sapin, quoi? Vraiment, non mais vraiment, on parle d'un niveau de 2 ans. Et puis j'ai les mains moites depuis toujours. Et du coup, tu sais, j'en avais toujours.
Big up.
Sur la main, c'est l'enfer.
Oui, donc, ok.
Donc du coup, tu vois, je levais la main, je remettais sur la feuille, bim, j'avais un deuxième sapin qui arrivait.
Merde.
Donc voilà. Non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc du droit parce que je savais pas quoi faire. Et en deuxième, j'ai redoublé ma deuxième année. Et bref, non, on s'en fout. En deuxième année, je suis allée prendre un verre avec une copine dans un bar. Et là, j'ai croisé un gars qui était le directeur des Ateliers de Sèvres, qui est une école qui prépare aux écoles d'art. Et là, il me dit, oui, donc nous, nos élèves, ils pondent des concepts créatifs et tout. Et là, je dis, non, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je lui dis, mais c'est génial, je rêve de faire ça. Et il me dit, oui, mais non, mais... Mais je dis, mais en revanche, je ne suis pas du tout manuel, est-ce que c'est grave? Il me dit, non, c'est pas grave du tout, on s'en fout, il faut juste des idées. Je dis, bah génial, ok, je peux m'inscrire. Il me dit, non, les inscriptions sont closes depuis 15 jours. Donc là, je suis, ok, mais donc, comment est-ce qu'on fait? S'il vous plaît. Bon, bref, là, je le saoule pendant une demi-heure. Et finalement, il accepte, il m'ouvre un créneau et il me dit, ok, viens dans 15 jours avec le thème de ton choix, ta carte blanche. Donc là, je prends une feuille canson, je me dis qu'est-ce que c'est que le paradis pour moi, parce que le paradis, ça ne me parle pas du tout, moi je ne crois pas au paradis. Donc bah, je colle des bouts de coton rose et blanc sur la feuille, des mégots usagés pour faire l'enfer. Enfin, j'ai fait un truc dégueulasse, franchement c'est dégueulasse, mais il y a toute une histoire et une philosophie autour de ce paradis. Et bon, j'ai un peu honte en vrai hein, de ce que je vais lui présenter, parce que franchement c'est dégueulasse. En plus, comme j'ai les mains mouettes, franchement tout a un peu bavé, mais ça sert à rien. En fait, pourtant j'ai mis des trucs sous ma main pour faire...
Des buvards.
Oui, déjà. Alors c'est ouais. Ça, j'en avais des quantités.
Du talc ou je sais pas
c'est
quoi.
C'est ça, mais ça aussi je fais, enfin bref, c'est compliqué. Et puis en parallèle de ça, je fais du théâtre amateur, et là j'ai une copine à qui je raconte cette histoire, et elle c'est une vraie artiste, elle est complètement un peu cinglée, enfin l'artiste comme on l'imagine, tu vois, un peu le stéréotype. Et je lui raconte cette histoire.
Stéréotype quoi.
Non mais tu vois, la nana qui a un billet avec des chaussettes de couleur rouge et une autre jaune, qui a toujours son carnet de dessin dans la poche.
Ah, okay. Qui est une vraie manuelle pour le coup.
Qui est une vraie manuelle, qui est vraie libérée de l'esprit vraiment, qui s'affranchit du regard d'autre, elle s'en fout. Enfin, c'est une vraie. Alors que moi, je suis encore dans mon carcan d'éducation et tout. Et là, je lui raconte ça, et elle me dit « Ah, t'as trop de chance, moi aussi, je voulais faire l'atelier de Sèvres, mais j'ai contacté il n'y a pas longtemps et les inscriptions sont closes. Ah, encore, t'as trop de chance. Ouais. » Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais aller foutre aux Ateliers de Sèvres avec ma coupe au carré et mon col Claudine? Non, mais j'ai rien d'une artiste, alors qu'au fond, je pense que je l'étais. Et je lui dis, bah écoute, Juliette, prends ma place. Et parce que, voilà, on s'en fout, de toute façon, il ne se souviendra pas de ma tête. J'ai un créneau, c'était le jour, c'était à une semaine, tu lui dis que tu viens de ma part. T'inquiète, ça va le faire. Le thème, c'est carte blanche, éclate-toi.
Donc tu lui files ce truc que t'avais quand même, enfin cet entretien que t'avais quand même gagné à la force de
du soulage
de ta reloutise.
Exactement. Et elle dit, ah oh, mais t'es sûre hein? Je dis bah ouais. Et en fait sur le coup oui, en fait vas-y, moi j'ai rien, mon paradis est immonde. Enfin franchement c'est un truc d'un enfant de 12 ans que j'ai fait. Donc vas-y. Et puis j'avais peur en vrai, parce que si jamais je suis prise, il faut que je fasse une école d'art. Oula, c'est être un peu en marge, c'est être déjà que je me sentais un peu différente. C'est être en marge encore plus. J'ai trop peur. Donc je lui dis, ben vas-y, elle a été prise. Après, elle a fait la Saint-Martin's. Après, elle s'est devenue une artiste. Ouais. Et moi, j'ai continué le droit.
Waouh. Mm. Et quand t'en reparles aujourd'hui, comment tu vis le truc? Tu te dis pas, putain, là, j'ai raté un carrefour?
Si.
Ouais.
Et en même temps, non.
Oui.
Voilà, parce que je suis très bien là aujourd'hui. Mais si. Et d'ailleurs, ce jour-là, à partir de ce moment-là, parce que du coup, le lendemain, le soir, j'étais, ah, mais je suis con en fait. Je suis con, pourquoi j'ai fait, je suis une peureuse, je suis une flippette, je suis nulle. Et je me suis dit, ok, c'est terminé. Désormais, je me créerai des opportunités, je saisirai les opportunités que je me suis créées, et surtout, je saisirai les opportunités qu'on me tend, tout le temps. C'est bon, ça suffit de perdre du temps, ça suffit de pas sauter à l'eau, on s'en fout si je me plante, on s'en fout s'il me dit non, on s'en fout si mon paradis est à chier, parce qu'il est à chier. On le sait, mais peut-être qu'en fait, pas tant que ça,
bien
et
sûr.
Je le vois pas.
Mmh.
C'est beau.
J'enverrai un mail à Fab Florent lui disant viens, je vais parler dans ton podcast.
Non, mais et voilà, et derrière, partie, c'est créer des opportunités.
Ok. J'imagine que tu t'en es créé d'autres.
Mais derrière, je me suis créé que des opportunités. J'ai pas passé un entretien. Enfin, j'en ai passé 500, mais j'en ai jamais eu un en faisant juste un entretien classique en entreprise. Tu sais. Je les ai jamais eu parce que je suis nulle. Enfin, je suis nulle d'entretien, je sais pas me vendre. Je trouve que vous avez des questions à chier. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez de faire? Je ne serais pas là, en fait. Non, mais si tu vois...
Je soignerais la femme dans le monde.
Bah oui, non, mais si je savais ce que je voulais faire, je ne serais pas en train de postuler chez Philippe Maurice, quoi.
Ah.
Ouais.
On revient au club.
Alors, je ne fumais même pas à l'époque, en fait. Mais tu vois, je ne serais pas là en train de vouloir vendre des croquettes pour chat. Qui a envie de vendre des croquettes pour chat depuis qu'il a 18 ans? Personne. Enfin, je pense que non, ça vient parce que tu te dis le marketing intéressant, le produit, je ne sais pas quoi, bon, et encore.
Ok. Donc tu continues tes études de droit?
Je continue ma licence de droit, j'ai une licence, et puis là je me dis non mais je peux pas. En fait je comprends rien, je suis nulle, j'ai 10-0-0 à chaque fois, je ne comprends rien quoi. C'est pourtant, c'est basique, hein, c'est du par cœur et tout, mais je ne comprends pas, c'est pas du tout, et pas du tout. Bref, je comprends pas.
Je t'aurais tellement pas dit, va faire du droit.
Mais non, mais tu m'aurais dit quoi? Va faire quoi?
Va écrire, je crois.
Mais, bah, mais tu m'as, en même temps, je ne vais rien écrire.
Ouais, mais c'est pas grave.
Mais va écrire dans où ça? Fac d'écriture?
Ouais.
Non, mais c'est. Mais attends, il y a 20 ans, c'est la fac d'écriture.
Ouais, il y a 20 ans.
Il y a 20 ans. Fac d'écriture, non. C'était un peu école de commerce, droit, BTS, IUT, je sais pas quoi, tu vois.
Moi, j'avais de la com, ça m'allait bien.
Ouais, alors bon, moi aussi, j'aurais pu faire de la com. Mes parents m'ont dit, franchement, la com, c'est bouché, quoi.
C'est pas un métier.
J'ai. Non, mais donc la
moi,
com.
Mon père, il était comptable, il m'a dit, je sais pas ce que c'est. Il a dit, c'est pas un métier, ça. J'ai fait, va mourir. Laisse-moi faire.
Non, mais ouais, la com, c'était un peu. Tu fais la. Alors que le droit, tu peux faire du droit et après aller vers la com. Alors que la com vers le droit, c'est plus compliqué.
Ouais. Mais tu voulais pas devenir avocate, de toute façon, ni travailler dans le.
Non,
dans
et en même
un
temps,
juridique.
Moi, ça me plaisait d'aller défendre la veuve et l'orphelin.
Ok.
Mais que la veuve et l'orphelin. Pas les méchants.
Ok. Donc tu fais ça.
Donc je fais ça, licence, et là je me dis, bon, ok, j'ai pas envie de faire une maîtrise, qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, on peut rentrer directement en deuxième année d'école de commerce, avec une licence. Mon Dieu, encore une année, l'école de commerce, j'en ai rien à foutre. Mais en même temps, au moins, pendant 2 ans, t'es au chaud. Tu pars 6 mois, 8 mois à l'étranger, tu fais 1 an de rattrapage, qui sont en fait des open bars. Et c'est très bien. Je suis au chaud pendant 2 ans. En fait, à chaque fois, je me dis, je suis au chaud. Psychologiquement, à pas me dire, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'à chaque fois, ma question, c'est, tous les ans, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai aucune idée. Et puis je trime pour les concours.
Alors juste pour revenir sur cette histoire de qu'est-ce que je vais faire, j'en ai aucune idée. T'avais vraiment littéralement aucune idée. T'avais pas une passion, t'avais pas des trucs qui t'animaient à l'époque.
Aucune idée. Mais quand je dis aucune, c'est aucune idée. C'est comme si tu me dis là, il y a quoi dans ton tiroir? J'ai aucune idée, quoi. Tu vois.
Ok.
Il y a peut-être des télécommandes de jeux vidéo, mais à part ça, je sais rien. Non, mais t'as aucune idée.
Ok.
Et c'est horriblissime. C'est horrible d'avoir rien. Et c'est même pas que j'avais pas d'idée, c'est que j'avais pas d'envie.
T'avais pas de passion?
Oui, non, j'avais pas de passion. J'adore le sport, mais alors, je me suis dit, je vais faire STAPS.
Ouais.
Puis là, mes parents m'ont dit, ça fait des gros muscles. Non, mais tu sais, après, t'as.
Fait tes gros muscles. C'est vraiment la pire raison pour pas faire des études
ça
de sport.
Faire des... c'est vrai. Ça va te faire des gros muscles, et puis. Puis après, tu t'enfermes dans le sport, quoi. En fait, ils avaient peur que je choisisse un truc qui me. Définissent très tôt.
Ouais.
Hein, tu vois, qui derrière m'ouvre pas de porte.
Avec le droit, c'est raté. Hein,
bah, non, mais parce que je pense qu'avec une licence en STAPS, je sais pas si j'aurais pu faire une école de commerce.
Bon, ça, ah oui, hein, tu vois. Dans ce sens-là.
Mais bon, donc. Non, j'avais rien. Donc, j'avais pas d'envie. Donc, école de commerce. Donc là, je trime pour avoir une école. J'en ai une, j'ai Audencia à Nantes. Et bah super, bah, je suis 2 ans au chaud. Pendant 1 an, on fait rien. Et donc là, non, là, je bois toujours pas.
Rien.
Ouais, c'était génial.
Coucou
bah non, mais...
les gens d'école de commerce. Vous avez rien branlé. Et hein?
Non, franchement, on fait rien.
Ouais.
On fait rien.
Et tu dis que tu bois pas, oui, parce qu'en fait, j'imagine que l'un des trucs d'école de commerce bien connu, c'est.
Ah, bah, c'est les open bars.
Les open bars.
Bah, c'est... bah voilà, bah, moi, je buvais du coca zéro, et puis voilà. Et puis c'est pas grave. Moi, j'adore danser, je me couche tard, et donc j'étais la dernière sur la piste de danse, c'était pas un problème, mais bon. Et puis après, on.
Qu'est-ce qui fait que tu bois pas?
Alors, je crois qu'au tout début, les vraies raisons de départ pour lesquelles j'ai pas voulu boire, parce que en fait au début t'attaques comme tu fumes une clope, enfin tu vois t'essayes, c'est qu'on m'avait dit, non mais je suis grave, hein, je sais que je suis grave, on m'avait dit que ça faisait énormément grossir, ouais, sur un truc comme ça. Et là je me suis dit, ok, bon bah je préfère me taper un burger. Et en fait je pense que ce truc est resté, et qu'après, alors c'est pas que ça, au début ça c'était quand t'as 14-15 ans, tu vois,
ouais.
Et derrière tu vois les gens qui sont dans les caniveaux. Tu te dis, non, mais ça ravage, en fait. Et là, moi, quand je vois des. Et surtout des filles, ça me rend ouf, quand je vois des filles dans un caniveau torché, je me dis, meuf, non, allez.
Pourquoi ça te rend plus ouf, des filles qu'un mec?
Bah, je me suis fait la réflexion récemment. En fait, bah, le mec, je fais. En fait, le mec, je le vois dans le caniveau bourré, je fais, vas-y, gars. Bon. Allez, quoi, un peu de dignité, tu vois. Et la fille, je sais pas encore plus. En fait, je suis triste pour elle. Plus que pour le mec. Enfin, sauf quand vraiment il est vraiment. Dans les deux cas, je suis triste pour eux, en fait. Tu vois, il y a un truc de. Pourquoi vous êtes allés jusque-là? Vous devez être malheureux, en fait. Parce que. Alors que moi, je me suis déjà. Hein, j'ai déjà bu et je me suis déjà pris des torches et tout. Mais pas au point de m'endormir dans la rue, vomir dans un caniveau, quoi. Puis surtout, il y a toujours quelqu'un de mes copains qui est là pour m'aider, en fait. Et là, la personne est seule. Et la nana seule qui est là, et moi je suis toujours là à dire est-ce que tu veux un coup de main, et vas-y, allez, go, cheer up, là, on y va, on attaque la vie, on s'enferme pas dans cet alcool, la tête dans son caniveau, ça me rend triste.
Ok, je me demandais s'il y avait pas un côté pas faire comme tout le monde.
Non, pas du tout.
Ok.
Non, mais j'étais...
Bah, tu fumes pas, tu bois pas quand t'es au collège, si tu veux, ou au lycée, pardon. Et même après, à la fac, il y a un côté un peu... t'es en dehors du troupeau, quoi, forcément.
Ouais, mais j'étais... Oui. Non, mais ça a jamais été pour pas faire comme tout le monde, quoi. Au contraire, j'aurais aimé... En fait, je voulais fumer, non, parce que sinon je me serais forcée, mais tu vois, je voulais fumer, je voulais me mettre des torches et m'éclater en me bourrant la gueule, mais ça m'intéressait pas. C'était pas un sujet, quoi. Donc les open bars.
Bon, voilà. J'étais la seule personne sobre de toute la soirée.
Et quand je chopais des mecs, tout le monde disait ouais, mais t'étais bourré. C'est pas grave, lui, il était chub, mais c'est pas grave. Moi, j'étais pas bourré. je pouvais pas dire, moi, j'étais saoul. Tout le monde savait. J'étais un peu grillé. Et voilà. Et puis, tac, tac, je pars un an au Vietnam en Erasmus. C'est génial.
Petit break dans l'interview, mais ne bougez pas. Si vous écoutez un de mes podcasts, j'ai besoin de vous. J'ai lancé une grande enquête pour mieux connaître de qui est composée l'audience de mon podcast. C'est très important pour moi, ça me permet de mieux savoir qui vous êtes, comment vous écoutez mes contenus, et aussi de savoir si vous avez des idées d'invités à me suggérer, par exemple. Ça vous prendra 3 minutes, et moi, ça me donnera un vrai coup de main. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous pouvez même le remplir tout en continuant à écouter ce podcast. Merci d'avance et tout de suite, la suite de l'interview.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Attends, tu vas trop vite. Je sais comment tu parles un an. Tu crois pas que tu vas m'avoir comme ça. Elle est géniale, cette anecdote.
Ouais, en gros, il faut choisir ses destinations d'étrangers et c'est en fonction de ton classement d'entrée, au concours de... Bref, on a compris.
Oui.
Et je suis dernière sur les attentes. Du coup, on me propose que la Suisse et la Belgique. Ouais, franchement, c'est glauquissime. Enfin, moi, je vais pas en Erasmus. Je préfère rester à Nantes qu'aller en Suisse ou en Belgique. Et je décide de ne pas cocher Suisse ni Belgique et je barre Belgique. Je barre Suisse et j'écris en majuscule Vietnam.
Désolé, mais c'est trop bien Bruxelles. Hein, mais bon, c'est...
Ouais, mais bon, c'est à 2 heures de Paris. Non. Non, mais l'intérêt d'aller quand même à l'étranger, c'est de partir.
Donc toi, tu barres les trucs et tu fais Vietnam parce qu'en fait, t'as envie d'aller au Vietnam.
Bah ouais. Et puis que c'est pas une destination proposée. Et puis là, le directeur de l'école m'appelle et il me dit « En fait, on est en train déjà de parler avec le Vietnam et on n'avait pas encore signé de truc et on a vu ton truc Vietnam. » On s'est dit « Allez, go. » On ouvre le partenariat, tu es la première à partir à Saigon. c'est quand même génialissime.
Et là, donc tu veux dire qu'en décidant de barrer le truc, en disant non, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas, genre, je vais barrer les deux propositions que vous me mettez et au hasard, je vais mettre Vietnam parce qu'en fait, je trouve ça cool, cette destination-là. Les mecs se sont dit, ah ok, bah, c'est peut-être l'occasion de réactiver le truc.
Ouais. Ils se sont dit, ah mais en fait, c'est vrai qu'on avait le Vietnam, là, ouais, ah, il y a des gens qui veulent partir. Peut-être qu'ils s'étaient dit qu'il n'y avait personne qui voulait partir, donc ils n'avaient pas activé, tu vois, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans leur tête, mais.
Ok.
Parce que les gens, ils préfèrent aller à Miami.
Oui. Donc, tu te retrouves au Vietnam.
Je me retrouve au Vietnam, à Saigon, toute seule, du coup. Parce qu'il n'y avait personne, j'étais seule. Au centre franco-vietnamien de gestion, avec, donc j'ai 20 et quelques, 25 ans, avec des gens qui sont en master. Des Vietnamiens qui font leur master. Et moi, c'est ma deuxième année d'école, tu vois. Ils ont tous 45 ans. Donc là, je n'ai pas assisté à un cours. En plus, c'était de 18h à 21h. J'en ai fait quelques-uns. Mais donc, toute la journée, j'avais la journée de libre. C'était génial. Donc, j'ai rien fait.
Ok.
J'ai fait de la moto, j'ai voyagé, j'allais au juice bar.
Qu'est-ce que t'en retires de cette expérience au Vietnam?
Bah écoute, c'est la première fois où j'ai commencé à être adulte. Bah, en fait, c'est surtout l'année où j'ai fumé.
Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai, pour faire des potes.
Pour faire des potes. Parce que je mangeais un bol de riz sur une petite table rouge avec des sièges rouges, là, toute seule, avec plein de Vietnamiens autour de moi. Et tu sais, ils me regardaient, ils disaient « Ah, hello, hello !» et tout. Je disais « Hello, hello !» Enfin, je parlais pas un mot, ils parlaient pas un mot d'anglais, et moi pas un mot de viette. Et ils s'arrêtaient pas de me proposer des clopes pour créer un lien. Et j'étais « Ah non, merci, non, merci, non, merci !» Puis au bout de 4 déchets toute seule, je dis « Ouais, ouais, ok !» Et ça me rappelait aussi la France, enfin. Et donc, me voilà en train de fumer une Marlboro rouge. Et en fait, dégueulasse, mais du coup, je rigolais avec eux et tac, tac, ça créait quelque chose. Et puis, bah, c'était parti. Après, du coup, j'ai acheté des Vogue.
Les fameuses.
Bonsoir. Et en plus, on avait le droit de fumer en boîte de nuit là-bas. C'était génial. Donc, j'ai mon paquet de Vogue et tout, comme les Vietnamiennes. C'était génial. Et non, et en fait, cette année, c'est assez extraordinaire parce que c'est l'année où t'es à l'étranger, t'es complètement toi-même. T'as pas tes parents, t'as pas ta famille, t'as pas tes amis. Et tu te fais pote avec des gens avec lesquels tu serais jamais fait pote en France. Et tu rencontres les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et ça quintuple la rapidité d'amitié, quoi.
C'est-à-dire ?
Ben, au bout de 2 jours, tu proposes à une nana que t'as rencontrée de partir en road trip à moto, sur la même moto, la meuf, tu la connais pas. Et c'est trop rigolo, et puis tu rencontres des gens sur place, et en fait, ça devient tes copains, et tac, 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 et tu les vois tous les jours, et puis ça devient tes colocs, et ça va beaucoup plus vite qu'à Paris. Pour se faire des copains à Paris, c'est ingérable.
Ouais, je comprends. Et puis la clope peut-être aide aussi.
Ah bah, et puis la clope. Fumez, fumez. Vous ferez des amis.
Est-ce que t'avais déjà cette voix rauque à l'époque ? Parce que tu sais, je trouve que t'as une voix très particulière. Mmh. Enfin, je crois qu'on te l'a déjà dit. Puis en plus, oui. C'est marrant que t'en aies fait ton métier aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que la clope t'a aidé à accentuer un peu cette voix ?
J'ai toujours eu cette voix. Peut-être qu'elle, parce que bien sûr, je me suis arrêté plusieurs fois, mais je pense que ma voix change un petit peu quand je fume plus, mais encore, c'est vraiment light.
Okay.
Mais quand j'étais petite, j'avais une voix toute mignonne comme ça. Et tout.
Ah ouais?
Ouais.
Ça a bien changé.
Non, ça n'a rien à voir avec la clope. Okay. Je sais pas, d'un coup, ça a mué.
C'est marrant. Parce que je trouve que ta voix, je sais pas, je trouve que ta voix va bien avec ton caractère.
Mais complètement.
Tu vois? Et si t'avais encore une petite voix, piou,
ça ne
marcherait pas.
Non. Mais alors, peut-être que... C'est quoi ? C'est la poule et l'œuf. C'est la voix, le caractère, la caractère et la voix. Est-ce que tu crois que c'est le caractère qui a fait que ma voix change ou c'est... Tu vois,
je
c'est intéressant,
pas.
Peut-être que...
C'est comme... Tu sais, je sais pas si tu connais cette anecdote, mais Michael Jordan, quand il était genre... il avait fini sa puberté à 16-17 ans, il faisait 1m80. Et en fait, il a encore pris 15-20 centimètres après 17 ans, alors que personne ne fait ça, normalement. Mmh. Mais au moment où il s'est rendu compte que j'imagine qu'il pouvait devenir basketteur. Mais... Il a grandi de ouf. Et je me dis que peut-être ça fait pareil avec ta voix. Tu
ouais.
vois, à partir du moment où tu as commencé à affirmer ton caractère, ta voix a changé.
Sûrement. Et puis comme j'étais un peu timide, ça me permettait de « Hey, oh, laisse-moi !»
J'ai un peu l'impression que ça t'a fait sortir de ta coquille.
Tout à fait. Après, je suis devenue moi-même adulte.
T'avais quel âge ? 20
Non, 27.
Au Vietnam ?
Non, attends, je sais pas.
Non, mais non, au Vietnam, t'avais pas...
2008. Même. Non, c'était à 20 ans. 2008, c'est à combien de temps ? 2008, 2018, 10 ans, 12 ans. Et 12 ans moins 37 ?
25,
ouais.
Ok. J'allais dire, t'avais pas 28 ans quand t'étais en école de commerce, quand même ?
Non.
Ok.
Non, 23, 24, bim, j'ai terminé par Vietnam, 25.
Comment ça se passe ton retour en France ? Le seum ?
Bah, le seum. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ?
Ouais.
Je trouve un stage à fin d'études.
Ah oui, en plus.
Aucune espèce d'idée.
Encore. On y revient.
Mais comme j'ai la carte UGC, que j'adore aller au cinéma, je me dis, bah, tiens, je vais travailler dans le cinéma. Et je trouve un stage chez Century Fox. Et voilà, à peu près c'est fini, 6 mois. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut trouver un premier boulot. Aucune espèce d'idée.
Alors c'est pareil, t'as une anecdote sur ton, sur ton fameux... Non mais on est là pour raconter ton histoire, on a le temps.
Bon alors,
hein.
D'accord. Alors,
Vas-y meuf.
Ok.
Me fais pas tout à moitié, quoi.
Ok. Donc, le stage Century Fox, entretien. Bonjour Pénélope. Est-ce que vous pouvez nous sortir quelques films de Danny Boyle ? Je voulais dire Danny Boone, non ? Oh non, Danny Boyle.
T'as vraiment dit ça ?
Oui. Bah oui.
T'as vraiment dit Danny Boone ?
Bah attends, le mec me dit Danny Boyle. Excuse-moi, qui connaît Danny Boyle ? Je dis, tiens, vous voulez dire Danny Boone ?
Tu sais maintenant.
Bah oui.
Mais bien, il a fait 2-3 films.
Mais c'est comme si tu avais dit est-ce que vous pouvez me sortir, je sais pas, 3 films de Steven Spielberg. T'aurais dit Steven Spielberg. C'était pareil. Danny Boyle, non, Danny Boone.
Ceci dit, c'est pas complètement à côté de la plaque de poser une question cinéma dans un entretien pour rentrer à la Fox.
Non, mais tout à fait. Mais Danny Boyle, enfin, je veux dire, Racogne au bataillon. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, je leur dis, mais écoutez, je vois pas, c'est de pas de ma génération. C'est ces gens qui disent, je connais pas les Beatles, j'étais pas née. Et donc, bref, bon, ils m'ont serré la main, ils m'ont dit au revoir, bonne continuation. Et là, je sors, c'était sur les champs, porte-maillot. Et puis, je grimpe les champs. Et puis là, je lève la tête et il y a une énorme affiche de cinéma. Sunshine, de Danny Boyle, distribué par Terry Fox.
Alors bon, un petit conseil pour vous. Si jamais vous passez des entretiens, n'hésitez pas un peu à les préparer. Souvent, ça aide de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'actu de la boîte.
Non, mais je les avais...
super film d'ailleurs.
Super film.
Tu l'as vu ou pas?
Ouais, mais en fait, attention à ne pas confondre avec Little Miss Sunshine. Hein.
Non, pas du tout la même ambiance. C'est un film où le soleil est en train de mourir et... Ouais. Et ils envoient une équipe pour envoyer une bombe afin de réveiller le soleil.
Exactement.
Oh, c'est génial ce film.
Mais l'affiche, c'est un énorme soleil avec 5 personnes dessus, debout, là. Ils marchent vers le soleil, je sais pas quoi. Voilà. Donc, et puis, alors, du coup, je me dis, non, mais c'est la hontissime. Du coup, je me dis, mais c'est... en fait, j'étais très en retard pour trouver un stage parce que j'avais prolongé le Vietnam, etc. Et, et surtout, ils m'avaient dit qu'on aurait des coffrets de 20 DVD tous les mois. Parce que c'était Fox, Pathé, Europa, il y avait tout. Plein de DVD. J'adore les DVD. Je fais une collection de DVD. J'ai 500 DVD à la maison. Je m'en sers plus, mais je trouve ça trop beau. Et je voulais plein de DVD. Et donc, il me fallait ce stage. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai écrit un petit mail en parlant de Danny Boyle. Donc, évidemment, avant, je suis allée sur Wikipédia. Là, je me suis rendu compte que c'était quand même lui qui avait fait La Plage, Petit Meurtre entre amis.
Trainspotting.
Franchement, le mec, il en a fait 50. Et donc, j'ai fait une sorte de portrait sur Danny Boyle en disant « Mais bien sûr, je connaissais Danny Boyle, mais je vous ai fait marcher. » Voilà. Bien sûr, pipo. Et ils m'ont renvoyé un mail en disant « Vous êtes prise. Merci d'avoir essayé. » Enfin, bien vu d'avoir essayé. Il faut essayer. En fait, on voit que vous en voulez. Vous êtes motivé.
Ok.
C'est ouf. Hein. Et à partir de ce jour-là, pareil, un peu comme le truc, tu te rends compte, en fait, dès que tu demandes, dès que tu pousses, bah, les gens, ils disent « Bah, ok. » Bah, on va donc, depuis, j'ai passé ma vie à demander. Même à toi, Fabrice.
Bon, ok.
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 Voilà.
Tu fais ce stage.
Tu fais ce stage.
Tu fais quoi après dans ta vie?
Bah, après, rien. Parce que je ne sais pas quoi faire. Et puis là, je vois un casting pour être animatrice sur la matinale de Oui FM. Génial.
Ah, oui, à l'époque.
Arthur.
Arthur l'avait.
Ouais. Ouais. Et voilà, donc je passe les concours. Je gagne en trichant. Enfin, je triche, c'est pas moi qui triche de moi-même. On me met les réponses sous les yeux. Franchement, qu'est-ce que tu fais? On te met les réponses sous les yeux. Tu triches, tu triches pas?
Je sais pas. C'est une vraie question. Mmh. C'est une vraie question d'éthique personnelle. Et je t'avoue que je crois qu'il faut y être au moment où.
Ouais.
Pour vérifier comment tu fais.
Et puis surtout que c'est vraiment. Elle est mise sous les yeux pour que tu gagnes, quoi. Ouais. C'est limite, tu vas te faire engueuler si tu ne triches pas. Enfin, tu vois, ils vont te dire t'es trop conne, je t'avais mis la feuille sous les yeux, j'exagère, mais tu sens que le truc, il est vraiment pour que tu gagnes. Bon, bah, j'ai triché, donc je me trouvais co-animatrice sur la matinale de l'OIFM. Très riche expérience. Hein. Donc c'est 6h-9h30, et puis après, c'est pas fini. Puisque tu travailles l'émission du lendemain,
bah oui.
Mais t'es payé 700 euros par mois.
Ah oui, parce que c'est pas vraiment un vrai job, c'était...
Oh si, si, mais radio quoi. Co-animatrice de radio. Un peu comme standardistes qui sont payés aussi peu cher.
Ok.
Et puis c'était une chance inouïe, et puis Pénélope, si t'es pas contente, tu sais, il y a la queue. Hein.
Ouais.
Donc t'es là, bon bah d'accord. Et donc tu fais donc là j'ai de la chance, mes parents pouvaient m'aider parce que 700 balles par mois t'as pas le temps de bosser à part la nuit, enfin faut pas déconner, tu te lèves à 4 du mat, tu peux pas. Donc je fais ça et en fait ça se passe très mal. Dès que je parle, on me met la main devant la figure pour que je m'arrête de parler.
Mais comment ça?
Bah parce que si tu me parlais, je faisais ça.
ça serait pénible.
Non, bah c'est très pénible.
Mais pourquoi? Parce que
oh, je pense qu'ils pensaient que j'étais pas très bonne.
OK.
Que je disais des trucs bêtes, pas intelligent, pas drôle. Moi, je me marrais à mes blagues, parce que c'était des blagues pourries, mais ça me faisait marrer, puis voilà. Surtout de l'autre côté, on me demandait quand même de rire à ces blagues. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un peu une ambiance dans le studio, donc je rigolais à ces blagues que je trouvais débilissimes. Mais je riais parce qu'il fallait rire. Et lui, il me mettait la main dans la figure quand je parlais, quoi. Bref. Du coup...
C'est qui, cet animateur?
Oh, bah, on va pas le dire.
Ok.
Mais, voilà. Oui, FM, en 2009.
Cherchez.
Cherchez vous-même. Et...
C'est un mec qui avait un peu de bouteille.
Ouais, il avait 15 ans de radio. Ouais, ouais. Il s'y connaissait. Non, c'était un vrai pro. C'est lui qui faisait l'émission, quoi. Moi, je faisais la météo, le trafic info. Et en fait, en vrai, j'aurais pu participer vachement plus, mais...
Il voulait pas te former?
Ah, ça ne m'intéressait pas du tout.
Okay.
Le premier jour, quand je suis arrivée, je n'avais donc jamais parlé dans un micro. Je ne savais pas du tout comment faire. Enfin, il n'y a rien à faire, mais... Je savais pas, parce qu'on ne m'avait pas dit prépare quelque chose. Donc, j'arrive le premier jour. Il me dit, bah t'inquiète, arrive à 5h45, ça va bien se passer. Ok. J'arrive à 6h55, à 6h, je mets mon micro, mon casque et tout. Oh, j'ai trop peur. Puis quand t'es dans un studio, tu te rends pas compte qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui s'écoutent. Et du coup, le mec me dit eh ben, bonjour à tous, nous sur WFM, hein, on accueille Pénélope. Bienvenue, Pénélope. Alors, comment ça va, Pénélope? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton mec, ce matin, quand tu t'es levée à 4h30 du mat?
C'est ça. C'est sa question.
C'est sa question.
Il
n'a
pas
briefé avant. Non, mais rien que d'y penser, là, ça me rend ma boule. Et en fait, déjà, je me dis. Alors, déjà, j'avais pas de mec à l'époque. C'est dégueulasse. J'avais pas de mec à l'époque. Je me dis, ça regarde personne de savoir si j'ai un mec. Je vais pas dire aux gens.
C'est mon intimité, on dirait.
C'est mon intimité, de savoir ce qu'il m'a dit dans mon lit. Non, mais. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette. D'où il me briefe pas, quoi. Enfin, sauf que t'as pas le temps de penser à tout ça. Ça doit... Normalement, t'as pas de silence en radio.
Ah, c'est un test en grandeur réelle, quoi.
Voilà.
C'est...
Bah, le test, je pense que je l'ai bien foiré. J'ai répondu. Bah, il m'a dit bonne journée.
Nul.
Nul. Fail.
La pire réponse. Et en même temps.
Ouais, non, mais c'est
il
nul.
Il avait qu'à te faire
Il voulait voir si j'étais bonne ou pas, quoi.
Si t'avais de la répartie.
Ouais. Mais sauf que c'est très très dur. Hein.
C'est horrible.
Non, c'est, mais... c'est pas de la répartie, parce que là c'est de la répartie en radio quand t'es quand même sous stress, en mode boulot.
Oui, c'est ta... et puis c'est ta première.
En plus, c'est ma première fois. Ou la dernière fois aussi, plusieurs fois il m'a fait. Enfin, pas plusieurs fois, mais une fois il m'a dit t'es arrivé de quoi hier, Pénélope? Non, mais attends. C'est hyper dur.
J'ai rêvé de toi.
Non, mais en fait, c'est vachement dur de trouver un. Il faut trouver des trucs comme ça à dire, ouais. C'est ça, mais d'un coup il te dit ça. Alors moi j'étais toujours perturbée entre la fiction et la vérité.
Ah oui. On va en reparler.
Non, mais est-ce que je... Moi, ça me plaît pas de mentir aux gens. J'aime pas mentir aux gens. Et en même temps, je vais pas te dire de quoi j'ai rêvé, tout le monde s'en fout. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc, à chaque fois, je disais, il fallait que je me souvienne de quoi j'ai rêvé. Enfin, non, mais j'étais débile, tu vois. J'étais pas du tout dans la création.
Ah oui.
Parce qu'on m'avait pas formé, on m'a pas expliqué. Alors, t'as rêvé de quoi? Alors, attends, j'ai rêvé de quoi? Bah, je sais plus trop. Non, mais c'était horrible. Au lieu de dire, bah, j'ai rêvé d'un ordinateur qui se baladait dans la rue. Mais, tu vois.
J'ai rêvé de que je perdais mes dents.
Ouais, le classique.
Sympa. Bon matin à tous.
Donc c'était hyper difficile. Okay. Et donc j'ai fait ça pendant.
Mais t'avais pas en tête que c'était la société du spectacle, quoi. C'était un show.
J'avais pas vraiment en tête ça. J'avais vraiment surtout très peur. Et de lui aussi.
Ok.
Enfin, pas de lui physiquement, mais il te met pas à l'aise. Et tu sais qu'il va te surprendre. T'es sur le qui-vive. Tu sais qu'il va te poser une question, tu sais pas laquelle. Donc t'es là, putain, faut que je sois toqué, s'il m'a posé une question et tout. Non, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Alors que normalement, dans la radio, tout est plus ou moins écrit.
Souvent.
Mais
ouais.
Oui, donc on te dit, bon là, à 2 minutes 12, je vais te demander un film qui t'a plu, prépare-toi, tatata. Enfin, tu vois.
Ouais, ou les moments d'impro, ils se font plutôt sur de la connivence et de la convivialité.
C'est ça.
Des moments sympas entre.
Entre chroniqueur, machin, quoi. Ouais. Oui, oui. Mais non.
Ok. Donc tu fais ça.
Donc je fais ça.
Bon, c'est marrant parce que c'est ton premier truc avec la voix.
Ouais.
Mais ça te plaît pas.
Échec. En fait, ça me plaît. Mais je suis nulle, apparemment, je suis nulle, j'ai pas de talent, je sais pas animer, je sais pas raconter des histoires, je suis un gros boulet.
Cool.
Cool.
Excellente expérience.
Donc j'ai plus envie de faire de radio, mais en même temps, j'ai quand même envie, mais en tout cas pas avec cette chaîne-là. Et je me dis, bah, je vais aller taper chez RTL et tout. Donc je rencontre quelqu'un de chez RTL, il me demande de faire des maquettes. Bien sûr, je fais des maquettes, puis j'ai pas de nouvelles. Bref, je fais ça dans 2-3 radios, puis j'ai pas de nouvelles. Voilà, marche pas. Mais en même temps, j'ai envie de continuer dans la création. Ça y est, je me reviens un peu à ce truc-là. Mais j'ai aucun réseau, je sais pas quoi comme création. On y revient toujours un peu, tu vois, raconter quoi, parler de quoi. Et du coup, je trouve un stage chez M6 un peu en parallèle, parce que du coup, je fais que le matin. Enfin, et puis, mon chômage, qu'est-ce que je veux faire? Là, j'ai 28 ans, 27, 26, je sais même plus. Et puis là, je trouve un job chez Groupon. La business, tu vois.
Groupon qui démarre tout juste ou presque à
ouais.
L'époque, non?
Ils sont CD Deal, ils viennent de se faire acheter par les US, okay. En Groupon. Et ils sont 60-100 au début quand j'arrive. Et là, pareil, l'entretien, c'est parce que c'est la DG qui me reçoit. Et elle regarde mon CV, elle explose de rire. Elle me dit, c'est quoi les Penny News? C'était un truc que j'avais chez WFM. Je dis, ah ouais, c'est une petite chronique rigolote que je fais qui dure 1 minute 30. Ah ouais, genre quoi? Et là, je lui fais une Penny News. Mais...
Les Penny News, mais vraiment le pire.
Je lui fais mon truc, elle explose de rire. On part en fou rire. Mais en fou rire, en plein entretien avec la DG. Et elle me dit, non mais ok, c'est bon, je te prends. Tu me fais rire, je vais t'apprendre à bosser. Parce que là, t'as fait un peu tout nimp. Je vais t'apprendre, on va vraiment chez nous, t'apprendre à bosser. Et donc, pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans, j'ai bossé comme une dingo, j'ai fait 3 jobs différents, c'était génial et tout. Puis j'ai fini en burn-out.
Ah ouais?
Force de trop bosser, ouais. J'ai pété un plomb. J'y arrivais plus. Au début, j'étais un peu la star quand je suis arrivée parce que je connaissais tout, tatatata. Et à la fin, On me demande de gérer des commerciaux. J'ai jamais fait de commercial, mais on me dit, mais c'est bon, c'est moi qui veux le poste. On me dit, ouais, vas-y, tu vas déchirer. On ne m'accompagne pas, on ne me forme pas, mais je me dis, c'est bon, je vais y arriver. Et en fait, je n'y arrive pas. Et à ce moment-là, je deviens la risée. Parce que je fais péter un peu l'épanouissement, tu vois, de la boîte. Quand t'as quelqu'un qui était un peu connu, parce que je suis arrivée au début, qui cartonne et qui d'un coup fait un burn-out, et ben on se dit, oulala, vaut mieux pas l'avoir dans les pattes parce qu'elle va péter un peu l'ambiance. Du coup, burn-out pendant un mois et demi. Et là, je veux plus revenir en entreprise. Je veux plus rien faire. Je vomis mes collègues, je vomis la cantine, je vomis, tu sais, tout ce truc.
Un vrai burn-out, quoi.
Un vrai burn-out. Bah, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un burn-out? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à monter une boîte, concrètement. Parce que c'est ta boîte. Du coup, avec une copine de chez Groupon, on monte une boîte. On monte Eat Your Box. Eat Your Box, qui veut dire mange ta boîte. Hein, donc, c'était une boîte.
Avec de la bouffe.
Avec de la bouffe et des recettes. Et puis, en fait, Eat Your Box, ça veut aussi dire mange ta chatte en Amérique.
Ah ouais.
Bad buzz, on ne le savait pas. Et puis, enfin, bad buzz, buzz quand même, donc ça nous aide. Et quand tu tapais Eat Your Box dans Google, tu avais des photos de chatte. Mange ta chatte, quoi.
Quel génie. C'est une box un peu spéciale.
Et ça cartonne, on fait 850 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de la première année, un an et demi. Et là, il y a Reworld Media qui nous approche pour nous racheter. Donc on
bout de alors, trois Reworld, mois. C'est un groupe qui...
rachète tout.
Voilà.
Marie-France.
Mondadori, etc. Quoi.
Grazia, tout ça.
Ouais.
Et ils voulaient justement se développer leur plateforme e-commerce. Donc, ils avaient déjà la box Marie-France, la box de leur magazine Gourmand. Donc, ils voulaient la box Eat Your Box pour renforcer la Gourmand. Et donc, trois mois de négo, tac, on vend.
Au bout d'un an et quelques.
Un an et six mois, ouais.
Waouh.
Et on vend 500 000 euros.
500 000
ouais.
Ouais. Pas mal.
Pas mal.
En un an et demi.
Pas mal en un an et demi. Bon, t'es deux, t'as les taxes. T'as un peu des actions de Reworld qui, toi, bon, il reste plus grand-chose. Mais... c'est quand même une réussite, t'as vendu ta boîte.
Ouais.
Et puis là, ils nous disent, bah tiens, on a acheté une maison à Saint-Tropez, on aimerait en faire le pop-up store du magazine Marie-France. Elle fait 150 mètres carrés, il y a tout à faire, tout à faire. C'est en travaux pour l'instant, Pénélope, parce que ça intéresse de la monter. Je passais 6 mois à Saint-Tropez, à monter cette boutique. Donc je trouvais la force de vente, les produits, j'ai fait la vitrine. Là, tu te rends compte que le retail est un vrai métier. Hein.
Ah oui.
Oh my God.
Ah oui.
Hyper dur.
Je fais Pimki, moi, tu sais, avant. Donc,
ah oui.
J'ai...
C'est marrant, Pimki, ouais.
Ouais. Non, non,
c'est dur. Hein.
Les magasins, c'est...
hyper dur.
C'est un truc de ma boule.
Et puis rien que le logiciel de caisse, laisse tomber. Mais bon, je m'éclate et je dors dans cette maison avec la terrasse en plein Saint-Tropez pendant 6 mois. Mes potes, c'est les vendeurs. Enfin, tu vois, mes vendeurs, c'est des potes que j'ai fait venir. Enfin, c'est génial. Bon, et puis ça se termine, 6 mois. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Parce que bah, j'ai monté la boîte, je veux plus voir l'entreprise en peinture. J'ai vendu 500 000 euros, c'est pas des milliards, mais bon, ça me fait vraiment un bon chèque sur mon compte en banque. J'ai une réussite à mon actif, tu vois, j'ai vendu une boîte. Allez là, Google, Blablacar, Airbnb, appelez-moi, bordel.
Ah ouais?
Moi, je me dis qu'ils vont m'appeler.
Mais pourquoi?
Bah parce que j'ai quand même vendu une boîte 500 000 euros. Mais sauf que c'est ridicule, on est d'accord.
Mais c'est pas ridicule, c'est bien de vendre une boîte. Déjà, c'est bien de vendre
sa
boîte.
Déjà, tout court.
De
oui,
sa boîte, 500 000 balles, au bout d'un an et demi, c'est pas mal.
Mais personne n'a entendu parler de cette vente, tu vois. Moi, je m'étais dit que. Mais moi, j'ai entendu parler comme ça, puisque forcément, c'était moi. Mais du coup, je me dis, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent pas, Uber et tout, là, ils m'appellent pas. Bon, bah, du coup, je les appelle. Du coup, je les contacte.
Tu voulais bosser dans ces boîtes?
En fait, non. Je sais pas ce que je voulais faire, mais okay. Je me suis dit, bah, maintenant, je vais aller prendre des gros postes dans ces boîtes-là. Et puis, en fait, bah, ils me reçoivent quand même. Et puis là, ils me disent, OK, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, donnez-moi une business unit et puis je la pilote, quoi. Mais quel genre de business unit? N'importe. En fait, moi, j'aime tout.
Tu sais toujours pas ce que tu veux faire.
Je sais pas ce que je veux faire. Descente aux enfers. Dépression pendant 7 mois, parce que j'ai pas de projet, j'ai pas de perspective. Et moi, quand je fais rien, je m'ennuie. C'est un peu mon problème. Et donc là, mon CV tombe dans les mains d'un mec super qui fait Crystal Festival, qui récompense les campagnes de pub.
Ah oui, OK.
Qui maintenant n'existe plus, mais... Voilà, et donc il me disait, bah tiens, il m'a dit, ok, je t'embauche, dans un mois, on veut monter une conférence autour du digital à Shanghai, vas-y, t'as un mois. Donc là, je partais un mois en Chine et puis je montais tout. Un mois à l'île Maurice, Dubaï, Paris, j'ai fait quelques pays comme ça, je suis allée en Inde et tout, machin. Très bien, super, et puis au bout d'un an et 4 mois, il ne peut plus me payer. Problème de trésor, et là, je me retrouve à nouveau, j'ai 32, 33 ans, ça va, je viens de monter une boîte, je me retrouve avec des, en plus, ils ont tous 22 ans, ils sont pas payés, ils sont là, alors que moi j'ai les moyens de pas ouais. Qui me payent pas pendant 2 mois, eux ils sont là, mon dieu. Bref, rupture conventionnelle. Et là, j'anticipe et je trouve un taf chez Énergie, directrice événementielle d'Énergie Group.
Ah ouais.
Énorme.
Canon.
Canon.
C'est une très belle boîte.
Ah bah, magnifique.
Directrice événementielle, pour rebondir sur ton truc précédent.
Ouais, c'est ce que j'ai vendu. Expérience. J'avais dit que j'avais fait plein d'événements et tout, alors que franchement, j'avais appelé 3 traiteurs et 2 animateurs, tu vois. Fallait bien que je me vende, fallait bien que je trouve un truc, parce que je savais pas quoi faire.
Tu savais toujours pas quoi faire?
Non.
Parce que c'est marrant, parce que t'as eu que des expériences jusque-là de 1 an et demi, 2 ans à chaque fois.
Ah bah,
c'est très court.
Je m'ennuie. Ou c'était des CDD, mais Groupon, ouais. Même burn-out, je me brûle les ailes, ou je veux revendre, ou tu vois. Je m'ennuie, quoi. Je me fais chier. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui manque. Mais je sais pas quoi, et voilà. Et là, Énergie Group, c'est quand même Énergie, Nostalgie, Chérie FM, Chérie 25, Énergie 12, tout ça. Je me dis, non, mais génial. Et là, on me dit, il faut piloter 5 personnes. Et moi, là où j'ai fait mon burn-out, c'est surtout pour manager les commerciaux que j'avais pété un plomb. Je ne sais pas manager. Enfin, je ne suis pas bonne du tout. En fait, j'étais allée un peu trop fort. Donc là, je me suis dit, oui, pas de problème, Énergie, pas de problème, je vais vous piloter 5 personnes et je vais y aller hyper smooth, tu vois, je vais être sympa. Tu
avais combien de gens manager chez Groupon?
7 commerciaux.
Ok.
Et là, j'en ai 5. Donc, je peux pas dire non. Donc, je dis, ouais, aucun problème. Et là, c'est 5 millennials.
tu vas pas me faire ce discours de vieille conne, s'il te plaît.
Ah, bah, excuse-moi, mais si.
Si non,
mais surtout,
vas-y.
Surtout que moi, je suis une millennials, hein. Mais je suis millennials star.
T'es une vieille millennials.
Ouais, je suis une vieille millennials. Non, c'est pas possible. Bah, ils ont tous, ils ont 3 ans de moins, 3, 4 ans de moins. Et le premier jour, bonjour, j'arrive à la table, bonjour, je suis Pénélope. Les mecs ne bougent pas, ne lèvent pas la tête de leur ordinateur, continuent à taper sur leur clavier. Ils en ont rien à foutre. Je suis oh putain, ça va pas être facile. Et je leur cale des rendez-vous individuels dans la journée pour apprendre à mieux les connaître. Et alors, t'en as 3 qui m'annulent. J'ai pas le temps. Je suis en réunion. J'ai du travail.
What?
Oui. Et t'en as une qui va en réunion avec moi, qui me dit, écoute, mais hop, je sais pas quoi te dire, mais on a tous vu ton CV, hein, évidemment. Il a fait tout le tour de la boîte. On s'attendait à un mec de 40 ans, déjà t'es une meuf et t'en as 33, on voit pas très bien ce que tu vas nous offrir. T'as fait que des boîtes d'un an et demi, t'as rien, aucune expérience en production événementielle pure. Donc c'est plutôt nous, j'ai l'impression, qui allons t'apprendre. Donc voilà, tu vas galérer quoi. Et puis au passage, moi j'aime pas du tout qu'on me chapote ni qu'on check mes présentations. Donc tu vas vraiment avoir du mal à me challenger, à me manager. Donc,
et à te challenger.
Et à me challenger. Bon courage, hein, bon courage.
Waouh, premier jour.
Premier jour. Et là, comme j'étais en burn-out de mon management d'avant, je me dis comment je vais faire. Je peux pas, je sais pas faire, j'ai peur.
Il y a un vrai truc hein, dans les boîtes, c'est que plus tu montes dans les boîtes, plus on, à un moment donné, tu vas être obligé de manager.
Oui.
Alors qu'en fait, c'est un vrai truc de manager.
C'est un vrai boulot. Manager, c'est un boulot.
Et que t'as le droit de pas avoir envie de manager.
Oui.
Mais après, il faut trouver les boîtes. Mais c'est vrai que les structures de boîtes, qui sont en général un peu à l'ancienne, quoi, c'est si tu commences à monter dans la hiérarchie ou en compétences, t'es obligé de manager.
T'es obligé de manager. Au mieux, t'en manages une qui en manage 4, qui en manage 2, qui en manage... en silo. Donc c'est l'enfer. Et dès le premier jour, j'ai envie de me barrer. Dès le premier jour, je suis sur le site de je sais plus quoi. Là.
Ah ouais?
Ah ouais. Et je passe des entretiens d'ailleurs très rapidement chez Deliveroo, donc je foire, mais je peux pas rester là. C'est pas possible. Et ils se moquent de moi, ils rigolent, ils s'envoient des trucs, des textos, ils me regardent, ils se marrent.
Mais c'est horrible.
Horrible.
Ok.
En bref, donc c'est un enfer.
Tu restes combien de temps?
Je tiens 1 an et 4 mois.
Non, vraiment?
Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait.
Mais comment? Pourquoi? Bah,
parce que je veux pas me retrouver chez moi. Je peux pas. Je peux pas me refaire une déprime, tu vois. Je peux pas. Et puis il faut quand même que je bosse. J'ai plus d'argent parce que j'ai plus d'argent. Il me reste un peu de sous de ma boîte, mais enfin rien. Et surtout j'ai plus de chômage parce que je les ai utilisés pendant ma boîte. Donc là, si j'ai rien, j'ai plus. Il faut que je bosse quoi. J'ai envie de bosser. Mais
et comment tu... Et t'arrives à...
Non.
T'arrives à leur masser un peu le cuir chevelu au Millennials?
Non,
ça marche pas?
Ça marche pas.
Millennials. En plus, ils ont quel âge?
Mais ils ont 28, hein.
Ok.
Ouais. Mais c'est... Bref, ça me réussit pas. Et puis toute la boîte, en fait. Toute la boîte ne m'aime pas. Je sais pas pourquoi. À nouveau, je me sens pas à ma place, quoi. Je m'engueule avec toute la boîte tout le temps. Parce que moi, je suis envie de... Je mets des coups de pied dans la fourmilière. J'aime quand, tout d'un coup, je me dis, mais je me rends compte qu'il y a des trucs qui n'ont pas été réglés d'années en avant, longtemps avant. Je dis, mais ça, vous avez réglé ça comment? Non, mais ça, c'est un vieux dossier d'un type qui n'est plus là. Je dis, ok, mais il faut qu'on le règle, non? Non. Bah si, parce que moi, là, j'en pâtis sur mon nouveau projet. Oui, mais non. Tu sais, il se face pas la réalité. C'est dingue, quoi. Et moi, j'essaye de monter des projets, des machins. On dit, ouais, good luck, pour faire changer les choses ici. Enfin, tu sais, c'est... Ouais. Voilà, c'est les vieilles boîtes qui... Pourtant, il y a des jeunes et tout. Ils sont tous jeunes. Hein, ils sont tous trop sympas en soi. En fait, individuellement, ils sont tous trop sympas. Et au sein de cette boîte...
C'est la culture un peu qui tire vers le bas, c'est ça?
C'est la culture qui tire vers le bas. Donc, j'étais vraiment pas heureuse. Et à ce moment-là, enfin, au moment où vraiment je... J'en peux plus. Enfin, pendant un an et demi, j'en pouvais plus. Mais j'ai un copain de chez Groupon qui devient CEO du Guide Michelin. Et qui me dit, viens monter le département événementiel, toujours. Parce que bien sûr, je dis que je suis la star de l'événementiel alors que j'ai pas organisé un événement dans ma vie. Et viens monter, viens moderniser un peu les événements du Guide Michelin qui sont encore un peu ringards parce que ça appartient aux pneus. Mmh. Donc t'as les pneus, t'as le bibendum et tout, viens changer ça. Je dis ok, génial. Donc là, j'ai des grandes conditions, je suis au comité de direction. On met une équipe, pareil, de gens qui ont été balancés des pneus au guide, un peu comme ça. Donc pas très créatif, etc. Mais ils sont de bonne volonté. Et là, pendant 7 mois, j'ai 8 mois d'essai. Et là, pendant 7 mois et demi, je bosse comme une dingo. Je parcours le monde, je modernise tout, je refais toute la strat. Je bosse comme une dingo. Puis au bout de 7 mois et demi, mon boss part.
Ah, celui qui t'avait recruté ?
Mmh.
Ton pote ?
Mmh. Okay. Et du coup, on met quelqu'un de 60 et quelques années à sa place. Des pneus. Quelqu'un
donc,
des pneus.
T'as vu, c'est pas un millennial. Tu devrais bien t'entendre avec, normalement.
D'ailleurs, très sympa. Hein. Ouais. Sauf que quand il me demande ma strat, il me dit... Bah pourquoi t'as enlevé tous les pneus et tout? Je sais pas, c'est mon mandat en fait. On m'a dit de moderniser. Ah oui, non mais là tu modernises pas, là tu fais flinguer le truc là. C'est ok. Bah, donc on va revenir comme avant, Pénélope. Je suis meilleur sans moi. Et là j'ai 34 ans et demi. Que depuis 18 ans, je galère. Enfin tu vois, je... Et là je me dis, enough. Ça suffit d'en plus pouvoir de ces boîtes, de ces gens qui comprennent rien comment il faut taffer là. Qui prennent pas de risques, qui ont peur pour leurs fesses, en fait. Et qui, moi, en réunion, je dis, mais attendez, c'est de la merde, ça va pas, ce qu'on fait, là. Je choque tout le monde quand je prends la parole et je dis que ça va pas. Je choque. Et puis, je parle à des gens qui sont au-dessus de moi et je leur dis, écoutez, je suis pas d'accord avec vous. Tout le monde me regarde, mon Dieu, oh my God, quoi. Je dis, bah, excusez-moi, enfin, si personne lui dit, on va dans le mur. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit. Moi, j'ai jamais, et puis, j'ai pas été élevée, j'ai pas du tout peur de, tu vois, la femme qui prend la parole en réunion. Aucun problème avec ça. Moi, j'ai pas été élevée, dont la femme doit se mettre un peu en retrait et tout. Pas du tout.
Ça vient d'où, cette confiance?
Ben, c'est mon éducation.
Ouais.
On m'a toujours dit... on m'a jamais dit t'es une fille et donc... Enfin, tu vois, On m'a enlevé. Intéressant. On m'a élevé. C'est bien, j'ai mon psy la semaine prochaine. On m'a élevé en me disant « Sois toi. Peu importe. » Et la phrase préférée de mes parents... Parce qu'à chaque fois, je me comparais, on s'en fout des autres. Ça, c'est leur phrase préférée. Donc, moi, c'est ma phrase préférée aujourd'hui. Je dis, mais on s'en fout des autres. Oui, mais elle, c'est comme, ah, je suis au chômage depuis 3 mois. Oui, bah, c'est rien, 3 mois. Et les gens me disent, oui, mais les autres, ils trouvent, on s'en fout des autres. Mais on s'en fout, quoi. Voilà. Donc, on s'en fout des autres. Et enfin, on s'en fout dans le sens où on se compare pas. Hein.
C'est un bon mantra, je trouve. De
c'est
vie.
Un super mantra. Donc, voilà. Donc,
38 piges.
35, non.
Pardon.
34 et demi.
N'importe quoi, t'as 37 30... maintenant.
Aujourd'hui, oui.
Non, ça fait 18 ans que tu galères. Depuis 18 ans que tu galères.
Et à 34 ans et demi, je me retrouve à nouveau sans rien, quoi. Sans envie, sans rien. Sans... Et je me dis, bon, bah, je vais aller postuler à nouveau chez un mademoiselle. Non, mais toi, dans un média, parce que j'ai fait que ça. Et puis, j'ai un copain qui, Bruno Vinet, qui a une cinquantaine d'années, qui me dit, Pénélope, pourquoi tu montes pas ta boîte à toi? C'est quoi ma boîte à moi? Il me dit, bah, tu racontes des trucs, t'as une voix, des business, en ce moment ça explose, les podcasts, fais tes podcasts. Je dis, mais c'est quoi les podcasts? Mais tu sais, c'est le replay des radios.
2018.
Tu sais, c'est le replay des radios, me dit-il. Je fais, oui, alors que je fais quoi avec le replay des radios? Il dit, mais tu vas voir des marques, tu leur proposes de faire leur podcast. Je dis, ah, putain, mais c'est vachement intelligent. Je dis, mais t'es génial. Il me dit, bah, ouais, je sais pas, ça se tente et tout. Oh, je fais trop bien. Mais là, je regarde même pas si ça existe. J'appelle mon comptable, mon avocat, statut, la toile sur écoute, tape, site internet, studio de narration audio, je vais créer des podcasts pour les marques.
Mais
c'est...
quoi?
Bah non, mais c'est brillant comme idée.
Oui, mais...
Bah donc, pourquoi regarder ce qui se passe? Bah ouais.
Ok.
Et puis ça me met dans une dynamique de... Il se passe des trucs, tu vois, surtout. Ok. Et ben... Et
mais
puis...
c'est quand même fou qu'avant même de regarder un peu ce qui se passe, parce que t'avais jamais fait un podcast de ta vie, tu savais pas comment ça marchait.
Je pense jamais écouter un podcast. Je peux le dire.
Pourquoi tu te lances là-dessus, bien en tête?
Parce que moi, je sais raconter des histoires aux marques. J'ai fait ça pendant 10 ans quand même. Et donc là, je trouve que c'est un nouveau format, l'audio, super, tu vois.
Tu sais raconter ton histoire aussi, j'ai l'impression.
Et je sais aussi raconter la mienne. Bah, j'ai appris depuis. Et donc, du coup, je me lance. Et je vérifie quand même que la toile sur écoute ne veuille pas dire un truc salace. En chinois ou je sais pas quoi.
Cunilingus. Ah voilà, merde.
C'est con, décidément. Et bah c'est parti, j'attaque les marques. Tac, tac, tac. Donc là, non, en fait, quand même, une fois que tout était prêt, je regarde un peu sur Internet et je me rends compte que bah, je suis pas la première du tout. Et que les boîtes sont déjà bien montées avec des studios, des gens, des salariés, que je suis à la ramasse, quoi. Mais bon, bah, c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Faut pas se laisser aller. Donc, j'attaque les marques directement avec ma petite presse PowerPoint sans vraiment savoir comment on fait un podcast, mais en racontant une histoire sympa pour chacune des marques, en faisant du push personnalisé. Et puis, bah, les marques me reçoivent et puis me disent « Ouais, 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 nous, on voudrait plutôt faire des interviews parce qu'on veut que ce soit vraiment héroïste. Hein. » Ah, oui, non, mais je crois que c'est pas vraiment héroïste ce que je vous propose là. Non, mais nous, on veut quelque chose d'héroïste absolument. D'accord, bon, ok, bon, ça marche pas trop. Du coup, j'arrête ça et je me dis « Mais en fait, je crois pas que ce soit vraiment héroïste, un podcast pour les marques. Comme elle veut que ce soit héroïste, comment je vais faire ?» Bon, déjà, en fait, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à faire mon propre podcast.
Très bonne idée.
Très bonne idée. Et surtout, c'est un copain qui m'a dit « Pénélope, t'as 2 ans de chômage, parce qu'entre temps, du coup, j'avais bossé. J'ai 2 ans de chômage. Pendant 1 an, tu fais ta vitrine, tu ponds du contenu, tu ne te payes pas 1 centime, et après, si jamais, eh ben, t'attaques les marques. » Je dis « Mais c'est horrible de ne pas gagner un rond en produisant autant de contenu. » C'était horrible. Vraiment, j'étais « Mais attends, je peux quand même accepter des trucs à 500 balles. » Juste psychologiquement, il me dit « Non, rien. Rien, pas 10 000, pas 500, rien. » Donc, je ne contacte plus de marque et je me focus sur mon contenu. Et donc, je crée L'Arnaque, qui est une chaîne de chronique où je raconte mes histoires de vie, donc comme l'histoire que je viens de vous raconter, mais avec des petites chutes, avec toujours un message de fond de « Allons-y, on s'en fout, il faut oser. » C'est censé être un peu rigolo. Et je fais un premier épisode, 2, 3, 4, 5, j'en fais une trentaine. Novembre 2018, et là, en janvier, février 2019, j'ai ma bannière sur Apple Podcast.
Et là,
la fameuse, qui aujourd'hui ne sert franchement plus à grand-chose.
Non,
et je passe de 300 écoutes par jour à peu près à 8000 écoutes par jour. Et
là,
c'est banco. Enfin, c'est banco. Je me dis, en fait, ça marche. En fait, c'est génial, ça plaît et tout. Parce que bien sûr, tout le monde m'avait dit, Pénélope, mes potes m'avaient dit, Pénélope, c'est tes histoires, on les connaît par cœur, tu nous gonfles avec.
Mais ça veut dire que pendant tout ce temps, tu fais des podcasts et ça fait 300.
Pendant 3 mois, ouais.
Pendant 3 mois.
Ça fait 500 par jour, ouais, 100.
Ça te fout pas le seum ?
Ça me fout le seum, mais en même temps, tous les jours, il y a des nouveaux, un ou deux, qui me font « Ah, super !» Et je me dis « Ah, c'est cool, hein, de plus. Okay. » Tu vois, je me dis, ça, pour l'instant, pour le moment, à ce moment-là, je suis patiente, chose que je ne suis pas du tout. Mais je sais pas, ouais, si, ça me fout le seum, mais en même temps, c'est 2 par semaine, donc il faut quand même les écrire. Et puis au début, je mets 4 heures pour en faire un. Hein. Aujourd'hui, je mets 1 heure, mais... Donc je prends du temps, ça me prend du temps, 2 par semaine, j'essaie de trouver des idées et tout, donc... Je suis un peu déprimée en vrai, mais bon, et puis d'un coup, bim.
Il y a un autre truc aussi qui m'a fait sourire, c'est que j'avais vu que tu avais fait un pilote d'interview.
Ouais, j'ai fait un pilote d'interview avec Michael Abitbol,
ouais.
Un acteur.
Qui est acteur.
Et j'étais nulle à chier. Et en fait, je voulais et lui laisser la parole, et me pas trop la prendre, mais en plus raconter des trucs, et machin, et le... En fait...
Tu voulais parler dans le micro, en fait.
Mais non, parce que en fait, justement, je parlais pas du tout. C'est-à-dire que je laissais complètement raconter. Donc, okay. Je posais des questions. Je voulais pas. Moi, j'aime pas les gens qui prennent trop la parole. Et donc, justement, enfin, qui dit ça.
Non, mais justement.
Non, mais du coup, je voulais
le faire.
Voilà. Et donc, je lui ai laissé la parole. Je trouvais ça génial. Et je voulais le rebondir avec des trucs intéressants, quoi. Mais sauf qu'en fait, j'avais tellement peur. Je sais pas. J'avais peur que je relançais mal. C'était pas drôle. Parfois, je lui lançais des phrases que j'avais préparées qui étaient censées être drôles.
Ah oui.
Mais qui faisaient flop. Tu vois. Il était là. J'étais là, non, bon, on coupera, c'est pas grave. Non, mais tu vois, c'était pas une converse normale, tu vois. Et puis quand même, il y a Sophie-Marie Larouille qui fait ça très ouais. Bien aussi dans le genre. Donc, bon, c'est pas mon métier, quoi. Je sais pas faire. Hein. Aujourd'hui, je sais pas faire. Et voilà, donc j'ai...
Sophie-Marie Larouille, c'est, parfois, j'écoute ses interviews et je me dis, mais pourquoi t'as Benoît Hamon et tu lui parles de pâtes? Et en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est géniale.
C'est ça qui est génial. Mais oui, non, c'est extraordinaire. Et puis surtout, elle a une culture. Elle te rebondit sur tous les sujets avec des associations d'idées qu'elle seule comprend dans sa tête. Non, c'est fort. Et voilà, donc je fais une première chaîne, ça marche bien. Et du coup, j'en lance un deuxième format qui est Pique Parole avec des portraits différents. Et puis je me dis, tiens, je vais faire une fiction avec un scénar et des comédiens. Et je lance une fiction, une autre fiction, et j'en fais 10. Et entre-temps, il y a des marques qui m'approchent, et notamment Mythic, qui m'a approché pendant le confinement. Donc j'ai fait la première saison de Mythic, une deuxième, une troisième, qu'on a traduit en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais. Enfin, c'était énorme truc, qui m'a donné un gros billet. Et derrière, des plus petites marques qui m'ont contacté. Et voilà.
La fin. Merci.
Bye bye, merci Fabrice, c'était cool.
Mais donc, est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ton truc là ? Parce que là, ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 2 ans ?
Ça fait un peu plus de 2 ans, ouais. J'ai l'impression.
Est-ce que c'est ta plus grosse expérience professionnelle ?
Oui. Ah bah normalement, c'est 1 an et 6 mois, 7 mois, 8 mois, je crois.
Okay.
Ouais, c'est ouf. Oui, alors mon truc, c'est quoi mon truc ? Le podcast ?
Bah, je sais pas. De non. Raconter des histoires.
Voilà, c'est ça en fait. Mon truc, c'est de créer. C'est la création et de raconter des histoires sur tous les formats. Donc là, je raconte en podcast. Quelque part, je suis nulle, mais sur Instagram, je raconte des histoires. Je sors des livres. Le 17 mars, je sors 2 livres chez Flammarion.
C'est le moment de faire ta promo.
C'est le moment. Alors, 17 mars, Flammarion, dans toutes les librairies de France et de Navarre.
Si elles sont encore ouvertes.
Si elles sont encore ouvertes, mon Dieu. Là, j'ai vu hier, du 1er au 15 mars, ça va être le drame et tout.
On ne sait pas.
C'est pas.
Ne balance pas des fake news sur mon podcast, s'il
excusez-moi,
te plaît.
Excusez-moi.
Je suis contre. Voilà.
Donc, sinon, vous allez sinon le click and collect ou sur les sites autres, bref.
Oui, c'était une vanne.
Et...
ils vont parler de quoi tes livres ?
Ça va s'appeler, c'est une collection qui s'appelle Les Aventures de Pénélope Boeuf. et c'est une collection de 4 tomes.
Ok.
Et ça reprend un peu l'arnaque, le système de l'arnaque, qui est cette fille qui se raconte. Et sauf que là, c'est chronologique. Donc chaque tome, c'est de 0 à 35. Parce que je l'ai écrit il y a 2 ans. Donc,
Ok.
Et c'est le premier thème, c'est sur. C'est l'audacieuse effrontée sur qui est cette personne, qui est Pénélope, sa famille, ses machins, son contexte. On apprend un peu à la connaître. Et le tome 2, c'est la travailleuse acharnée.
Ok.
Et donc, c'est Pénélope de 0 à 35 ans. Au départ, ce qu'elle voulait faire, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire, et toutes ses galères, avec une rythmique, une chronologie, de l'humour, des messages, et surtout, en vrai. Ce n'est pas juste un livre. Enfin, ce ne sont pas juste des livres. Parce que moi, je ne suis pas écrivain, fondamentalement. Donc, je voulais faire un truc qui me ressemble. Et un truc qui me ressemble, c'est un truc qui... un peu fouillis, il y en a un peu partout, il y en a dans tous les sens, c'est pas rectiligne. Et du coup, il y a plein de surprises. Il y a genre des QR codes, ah. Il y a genre des trucs cachés, il y a des jeux. Enfin voilà, c'est un univers en fait, c'est un univers que je sors et en format papier.
Ce qui est ouf quand même, c'est que tu as réussi à sortir des livres qui s'appellent Les Aventures de Pénélope Boeuf. Alors que quand même, ce nom, c'est quand même pas fastoche à porter, quoi.
Mais
tu
c'est
vois
juste, et d'ailleurs, c'est parce que ce nom est pas fastoche qu'on l'a appelé comme ça. Je voulais l'appeler Les Aventures de Pénélope, et on m'a dit, mais bof, c'est mieux. Mais, et d'ailleurs, sur le livre, c'est même pas... Non mais ça, c'est horrible. Je sais pas combien d'auteurs qui ont ça. Comme ça s'appelle Les Aventures de Pénélope et que je ne suis pas morte, a priori.
Ouais.
Donc, c'est donc pas du tout, c'est pas du tout une biographie. Enfin, tu vois, c'est... Il n'y a pas écrit auteur Pénélope Boeuf.
Ah oui.
Il n'y a pas écrit l'auteur, quoi. C'est quand même...
C'est triste.
Bah c'est... Non, mais c'est tellement le titre est... Enfin, tu vois, c'est un peu... Mais il faut le prendre avec du second degré, évidemment. Et d'ailleurs, tout le truc, c'est du... C'est du... Enfin, c'est du second degré. Non, c'est mes histoires, mais
ouais.
Le fait que je me raconte en soi, tu vois, c'est décalé, quoi.
Ouais, c'est cool.
Donc voilà, ça, c'est cool. Et le 6 mai, je sors le podcast pour les nuls.
Okay.
L'édition Les Nuls.
Dans la fameuse
couverture noire et jaune.
Jaune.
Exactement. Donc, c'est créer son podcast. Comment créer son podcast ?
Tout ça en partant d'un pote qui te dit, au fait. C'est quand même
c'est
génial.
C'est ça qui est génial.
Ouais.
C'est que j'étais nul et je finis par écrire le podcast pour les nuls.
Bah, c'est oui.
C'est dingo, quoi.
J'imagine en plus que tu as pris la voix la plus artisanale possible, entre guillemets, parce que.
Ah, bah oui.
Voilà.
Ah, bah ça, oui. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'ils sont venus me chercher parce que j'ai démarré dans une chambre, quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'en vis. Donc, j'en vis pas. Surtout par les marques, mais parce que avoir son podcast
oui.
Avec des sponsors et des machins, il faut aller les chercher, il faut avoir beaucoup d'écoute, c'est quand même pas.
Il faut le dire quand même, c'est pas forcément évident. J'ai reçu Patrick Béja dans le podcast qui raconte que lui, bah, il en a fait pendant 10 piges avant de pouvoir commencer à
se payer correctement. Quoi.
À se payer, quoi. Donc, ouais. C'est sûr que c'est pas. On n'est pas en train de vous dire commencez à tous vous lancer dans le podcast pour gagner votre life, c'est pas. Non, après, il faut le faire.
Ouais,
mais...
ouais.
Mais c'est juste qu'effectivement, c'est pas forcément facile. Quoi.
Et en plus, lui, il avait. Décidément, pardon. Patrick Béja, il avait Patreon en plus. Hein,
ouais. Ouais. C'est surtout Patreon qui l'a
aidé. À...
Qui l'a aidé mais... Et donc, c'est ses auditeurs qui l'ont financé. Quoi. Donc, c'est d'autant plus fort.
Bah oui. Mais moi, je crois que mes fans, ils adorent, mais ils sont pas prêts à me financer.
Tu leur as déjà demandé ?
Ben, j'ai déjà demandé combien est-ce que vous metteriez, ou est-ce que vous accepteriez. Ils disent oui. Et quand j'ai fait une campagne Ulule, oh ben, j'ai eu 3 personnes qui ont mis 5 balles, quoi.
C'est triste.
Sur 2 mois de campagne, tu vois. Tu es là, ben, les gars, en fait, tous les jours, je vous sors du contenu, quand même. Et, mais en même temps, je comprends qu'on ne veuille pas payer parce qu'il y a tellement de contenu gratuit, mais ben, dans ce cas-là, j'arrête. Non, mais tu vois, c'est quand même... C'est normal, c'est comme la pub c'est chiant, bah oui, mais enfin, faut bien qu'on se paye, quoi.
Mmh. Mais ça pose une autre question de la gratuité du contenu,
bah,
avec Internet et de comment on fait pour rémunérer les autrices et les auteurs, etc., quoi.
Bah oui. Et je sais pas, est-ce que tu préfères de la pub et te taper de la pub et pas dépenser d'argent, ou alors est-ce que tu préfères dépenser de l'argent et pas avoir de pub? Bah les deux sont chiants, bah oui, les deux sont chiants, mais.
C'est des vraies questions de 2021, quoi.
Oui. Et pourquoi sur Spotify, les auteurs sont pas rémunérés? Les podcasteurs sont pas rémunérés?
Oui, pareil, ça.
Ah oui? Bah non, mais quand t'es artiste sur Spotify, tu reçois des sous, quoi. Bah les podcasteurs, non. Pourquoi?
Il paraît que nous, grâce à... Toi aussi, t'es chez Acast, hein, donc oui. Il paraît que Acast, ils font partie des rares hébergeurs à gagner des sous avec Spotify.
Comment ils gagnent des sous avec Spotify?
Alors, en fait, ils mettent notre pub. Et donc, on a nos pubs.
Oui, mais toi aussi, du coup, tu gagnes des sous. Oui. Non, mais Spotify ne rémunère pas les podcasteurs en tant qu'artistes. C'est ça.
Bah, ils préfèrent acheter des studios extrêmement chers.
Bah oui, mais pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que les podcasteurs sont pas des artistes?
Ah, j'ai jamais dit le contraire.
Non, mais c'est, tu vois, c'est quoi
c'est
leur...
C'est une vraie question, c'est vrai.
Je ne comprends pas pourquoi. Ça me dépasse un peu. Ça, c'est un vrai sujet. Mais un jour.
Quand on aura des labels.
Quand on aura des labels, exactement.
Et que toute l'industrie sera réglementée et que...
Dans 10 ans. Et que quand on mettra Beyoncé, on se fera engueuler dans notre podcast.
Ça arrive.
Oui.
Préparez-vous.
Préparez-vous. Pour l'instant, on peut le mettre, c'est génial. Moi, j'adore, je suis trop contente. Moi, je fais écouter aux gens des musiques dans mes podcasts. Dans le journal confiné, à la fin de chaque journal, je mets une musique. C'est génial. Sauf que bon, bah, le mec n'est pas payé. Quoi. Bon, quand c'est Beyoncé, ça va. Mais... Enfin, ça va. Pas de raison, mais...
Non. Ça pose des vraies questions. Tu vois, parce que tu râles parce que tu.
Mais tout à
parce
fait.
Parce que Spotify te paye pas et d'un autre côté.
Eh ben, payez-moi et je mettrai pas Beyoncé. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, il y a un moment, ok. Non, mais c'est compliqué, c'est un vrai sujet. Hein.
Vraie question. Merci beaucoup, Pénélope.
Merci, Fabrice.
Qu'est-ce qu'on. Dis donc, et tu sais.
Combien? 2h30?
1h15. On a bien parlé. Ouais. Surtout toi. Bon, je vous mettrai tous les liens si vous voulez suivre Pénélope. La toile sur écoute, sur Internet. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux.
Sur Internet.
Sur les Internets, d'une manière générale. et puis, très vite.
Bah, très vite.
Salut.
Ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.